le patron te raconte que t'es adroit et gentil. Sois sûr que t'es le nigaud qui fait marcher son bateau. Attends-moi, petit gosse.
Bienvenue à la si complainte du travail.
Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. L'argent est au bas de l'échelle et le talent part en haut. C'est pourquoi personne en haut, pourtant la vue est plus belle. Attends-moi, petit gosse, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou.
Alors, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, vous êtes aujourd'hui en ce moment à l'écoute de l'émission La Complainte du Travail. Alors, une émission qui vous est présentée par l'organisme Illusion Emploi et qui vous parle à toutes les deux semaines d'un sujet en lien avec l'emploi. Aujourd'hui, on a avec nous M. Rénan Leroy, qui est conseiller syndical à la Fédération de la santé et des services sociaux associés à la CSN, et Mme Mélissa Gaouette, vice-présidente régionale de la F3S à la CSN également. Alors, bonjour à vous deux.
Bonjour.
Et la raison pour laquelle on vous a fait venir aujourd'hui, c'est que vous êtes toutes les deux, vous travaillez en ce moment beaucoup à la syndicalisation des services en milieu familial, donc tout ce qui est en lien avec la loi 7 et 8. Alors ça, c'est quand même un sujet qu'on a entendu parler dans les médias, mais qui aborde un paquet de questions auxquelles on n'a pas toujours les réponses. Alors aujourd'hui, on veut démystifier ces deux lois-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire pour que les femmes puissent avoir accès à l'accréditation syndicale et comment le gouvernement a réagi à tout ça? Alors, peut-être au départ, mentionner aux gens, c'est quoi la loi 7 et la loi 8, la distinction entre les deux et comment le gouvernement a réagi?
Bien, en 2003, quand le gouvernement de Charest a pris le pouvoir, il a passé en décembre 2003 7 ou 8 lois qui, sous le baillon, qui venait enlever des droits démocratiques à des travailleurs ou à des travailleuses, dont les femmes qui travaillent à la maison pour ce qu'on appelle les services de garde de type familial. Il a enlevé le droit à ces femmes-là de se syndiquer et de négocier leurs conditions de travail, et ce, de façon rétroactive. De même que les femmes qui sont à la maison et s'occupent de personnes âgées ou s'occupent de jeunes en déficience intellectuelle, c'est la même chose, il leur a enlevé ces droits-là. Parce que nous avions commencé, suite à des demandes, à syndiquer ces travailleuses-là, environ vers le milieu des années 2000, dans 2000. Et on avait eu gain de cause devant la Commission des relations de travail. On avait obtenu des accréditations syndicales. Ce gouvernement-là s'est dit, on passait une loi sous le baillon et pour enlever rétroactivement tout droit de négocier leurs conditions de travail et de se syndiquer.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi le gouvernement avait cette intention-là de retirer ce droit-là?
Bon, les prétentions du gouvernement, on le voit dans le jugement de la Cour supérieure où on a contesté ces deux lois-là et où on a eu gain de cause. C'est la juge Danielle Grenier, le 31 octobre 2008, qui a rendu une décision pour invalider les lois 7 et 8 en disant qu'elles n'étaient pas constitutionnelles parce qu'elles brimaient des droits fondamentaux, c'est-à-dire le droit de s'associer librement et de négocier ses conditions de travail. De même que ça venait discriminer des femmes, parce que c'est majoritairement des femmes, qui font un travail qu'on appelle les études de caring, c'est-à-dire prendre soin soit d'enfants ou de personnes âgées.
Un travail qui est traditionnellement reconnu comme étant du bénévolat, puis ça va de soi, les femmes le font parce que ça fait partie du rôle de la femme, et qui, dans l'histoire, on a eu du mal à reconnaître que c'est un travail qui méritait un bon salaire et de bonnes conditions d'emploi.
C'est ça, vous avez tout à fait raison. Donc, c'est sur ces deux points de droit-là qu'on a gagné au mois d'octobre 2008. Le gouvernement aussi prétendait que ce ne sont pas des personnes, des travailleuses ou des salariés au sens du code, c'est des travailleuses autonomes, sont libres de faire ce qu'elles veulent. Alors que la preuve a démontré que ces gens-là, ils n'ont qu'un seul client et comme un seul patron, c'est-à-dire le bureau coordonnateur ou le CPE qui les accrédite pour garder les enfants à la maison.
Puis pour les auditeurs et auditrices, mais on rappelle que pour être considéré comme un travailleur autonome, on doit avoir plusieurs clients, choisir le prix que nos clients vont payer pour nos services. Il faut pouvoir aussi choisir nos horaires, ce qui n'est pas le cas pour les gens qui gardent des enfants à la maison.
Non, les responsables en service de garde à domicile doivent être accrédités auprès d'un bureau coordonnateur qui relève d'un CPE. Ils sont surveillés. Il y a des agents de conformité qui voient à ce qu'ils respectent les règles émises par le ministère de la Famille. Elles doivent appliquer le programme pédagogique et ont du soutien de la part du bureau coordonnateur, par des professionnels du bureau coordonnateur. Donc, elles sont encadrées, le tarif...
Les heures d'ouverture, effectivement.
Les heures d'ouverture, donc, et le tarif aussi est encadré. C'est le même tarif que les CPE, c'est-à-dire 7 $ par journée, par enfant. Et leur rémunération est donc encadrée, là, et ils ne peuvent pas la négocier.
Alors, ça démontre clairement que ce n'est pas des travailleuses autonomes au sens de la loi, là, des normes du travail. Oui, Mélissa?
Puis ce que ça a l'impact de cette loi-là, puis on le sait, c'est un milieu majoritairement féminin, c'est que les femmes n'avaient pas droit au retrait préventif, travaillaient avec des jeunes enfants, donc...
La cinquième maladie, il y avait des risques.
Donc, c'est majoritairement des femmes qui se retrouvaient enceintes, ne pouvaient pas se retirer, donc devaient fermer leur garderie temporairement. Les congés fériés, congés de maladie, c'était pas accessible.
Parce que le fait de ne pas être considéré comme un salarié fait en sorte que la femme qui veut avoir accès à la santé et sécurité au travail pour avoir un retrait préventif doit payer une double cotisation à la CSST. Et la plupart des travailleuses autonomes ne connaissent même pas cette réalité-là, ce droit-là qu'ils peuvent avoir recours à la CSST. Alors, effectivement, la personne qui choisit d'être en retrait pour ne pas brimer sa santé ou la santé du fœtus, elle n'a aucun revenu qui rentre.
C'est ça.
Intéressant. Alors, résultat?
Résultat, suite au jugement de la Cour supérieure, le gouvernement n'est pas allé en appel. Hein, on le sait, il était en élection,
en période
électorale, donc il a décidé de ne pas aller en appel. Et depuis ce temps-là, on a déposé, nous à la CSN et d'autres syndicats ont déposé, continuer leur campagne de syndicalisation pour syndiquer les responsables en service de garde. On est présentement devant la Commission des relations de travail pour être accrédité, mais entre-temps, il y a eu des négociations directement avec le gouvernement pour essayer de voir, et que ça ne traîne pas en longueur, et voir d'améliorer les conditions de travail de ces gens-là. Et il n'y a pas de résultat. Ce qu'on sait, c'est que le gouvernement songe à légiférer de nouveau. Et pour se placer dans le cadre du jugement, parce que le jugement de la Cour supérieure dit le gouvernement, dans une société démocratique, ne peut pas enlever tous les droits. Il doit, s'il considère qu'il y a des bonnes raisons, des bons motifs, il doit voir à prendre, ce qu'on peut dire, des gants blancs pour essayer de négocier avec les syndicats, avec ces personnes-là, et de faire en sorte de porter atteinte le moins possible aux droits fondamentaux que sont le droit de s'associer, de négocier librement. Donc, la juge dit qu'il aurait pu faire un régime particulier pour tenir compte de leur réalité, étant donné, comme on a fait pour les travailleurs de la construction, il y a un régime particulier, comme on a fait pour différents autres groupes qui ne sont pas nécessairement régis par le Code du travail, strictement, mais qui ont le droit de s'associer puis de négocier leurs conditions de travail. On peut penser aux policiers qui n'ont pas le droit d'être faire partie d'un syndicat qui regroupe d'autres personnes. Ils ont le droit de se syndiquer. Ils ont une condition particulière.
D'accord. Je ne savais pas.
C'est ça. Donc, le gouvernement peut légiférer pour... en 2003, il aurait pu convenir de faire une loi, mais pas leur enlever tous les droits drastiquement comme il l'a fait. Donc, ça s'enligne peu vers ça, ce qu'on sait. Nous, les représentations qu'on a fait au gouvernement, c'est de dire qu'il faut s'assurer que ces gens-là aient le plus de droits fondamentaux possibles, que ce soit des conditions de la loi des normes, de la santé et sécurité, et qu'ils aient le droit de négocier puis de s'associer, même si c'est dans un régime particulier.
Une requête en accréditation syndicale, ça prend combien de temps avant d'avoir le verdict le dernier verdict ou le droit, en fait, d'être considéré comme étant une personne syndiquée?
Normalement, on dépose à la Commission des relations de travail 50 % plus 1 des travailleurs ou des travailleuses dans une entreprise, et on a la majorité, et que l'employeur ne conteste pas, ça va relativement plus rapidement depuis que la Commission des relations de travail a été mise sur pied.
Est-ce qu'il y a des bureaux coordonnateurs qui, en ce moment... ont déjà l'accréditation syndicale pour les garderies en milieu familial ou enfin les femmes qui gardent des personnes ayant une déficience à la maison?
Non, parce que le gouvernement s'est objecté à faire des représentations devant la Commission des relations de travail pour contester le statut de salarié et contester les accréditations revendiquées par les différents syndicats.
Alors, on est un peu dans un mode attente en ce moment, oui, Mélissa?
Sauf qu'en 2002, il y avait eu l'acceptation de trois endroits, deux endroits à Québec, puis un endroit aussi, je crois que c'était en Montérégie, où c'est les milieux de garde avaient été syndiqués. Donc, ça avait déjà été accepté par le passé, par le CRT.
D'accord. Alors, on fait une pause en musique, puis on revient tout à l'heure. On va parler encore plus de la syndicalisation, comment ça se passe et tout. Alors, on se laisse en musique avec une chanson de Jacques Brel, mais interprétée par un artiste qui s'appelle M.
Suivant. Suivant.
Tout nu dans ma serviette qui me servait de panne, j'avais le rouge au front, le savon à la main.
Suivant.
J'avais juste 20 ans et nous étions 120 à être le suivant de celui qu'on suivait. J'avais juste 20 ans et je me déniaisais au bordel ambulant d'une armée en campagne. Moi, j'aurais bien aimé un peu plus de tendresse, voilà.
CFLX 95,5. La radio communautaire de l'Estrie.
Alors, bonjour et bon retour. J'espère que vous avez apprécié la chanson qui vient de jouer. Alors, je vous rappelle, si vous venez de vous joindre à nous, qu'aujourd'hui, le sujet de l'émission à la complainte du travail, c'est la loi 7 et 8, qui avait été jugée inconstitutionnelle par la Cour suprême, la Cour supérieure du Québec, des lois que le gouvernement Charest avait fait passer en 2003 sous le Bâillon. Mélissa, j'aurais deux questions pour toi. La première, peut-être expliquer aux auditeurs et aux auditrices, qu'est-ce qu'une loi sous le Bâillon? Et quel était l'objectif du gouvernement? Dans quelle lignée est-ce que ça s'est fait? C'était quoi les valeurs qui sous-tendent ces deux lois-là?
Bien, une loi sous le Bâillon, dans le fond, il y en a eu plusieurs. Puis, sous le règne du gouvernement Charest, qui était majoritaire à l'époque, c'est que, dans le fond, l'opposition n'a pas droit de veto sur cette loi-là. C'est adopté. La population, les élus ont rien à dire là-dessus. Puis c'était dans un contexte, il est arrivé au pouvoir, il a décidé de s'attaquer beaucoup aux syndicalistes. Dans le secteur public, on a eu la loi 30 qui a divisé le monde syndical, qui a brimé notre droit d'association. Donc, on sait qu'on a gagné à la Cour suprême. Ça va être d'aller en appel. Le gouvernement a décidé d'aller en appel sur cette loi-là parce qu'il n'était pas en élection à ce moment-là. Et puis, il y avait une tendance, il y avait tout une réorganisation du réseau complet en santé et services sociaux. Si je regarde au niveau des personnes âgées ou les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, les gens handicapés, au lieu d'ouvrir des nouvelles places dans le réseau public en CHSLD, bien, il y avait un transfert vers les RIRTF. Donc, on retourne à la communauté, ces gens-là. Même chose pour le milieu de garde. Dans le fond, on ne voulait pas ouvrir de nouvelles places en CPE. À la place, on ouvrait des places en milieu familial. Et puis, en plus, bien, on transférait. Puis, on enlevait le droit de se syndiquer à ces gens-là. Fait que pour le gouvernement, ça coûtait moins cher en frais de salaire et tout.
En frais d'institution aussi, d'infrastructure. Tu n'as pas à entretenir la bâtisse, la maison, la mise à jour des équipements.
Puis, en plus, on se retrouve avec un taux de syndicalisation qui peut diminuer, puis un rapport de force qui diminue. Fait que c'était très intéressant pour ce gouvernement-là. Puis, je pense que c'est ce qu'il voulait faire, vraiment, privatiser, puis envoyer vers la communauté là, les soins.
La prise en charge de la population, mais en se déresponsabilisant de ses responsabilités.
Puis, en enlevant les droits fondamentaux de ces travailleurs-là, ce qui est assez déplorable.
J'ajouterais qu'il faut se rappeler les paroles de Jean Charest qui avait dit « Dans 4 ans, vous ne reconnaîtrez plus le Québec ». C'était de vouloir défaire tout ce qui avait été fait, comme si tout ce qui avait été fait au Québec, surtout dans les services publics, l'État, était négatif ou,
qui avait nui aux citoyens.
Nui aux citoyens, moins performant et tout au privé. Donc, on rapetissait, rappelez-vous, Monique Jérôme-Forgette avec sa réingénierie de l'État, avec les PPP. Donc, ces lois-là sous le Bâillon, parce qu'une loi sous le Bâillon, c'est qu'il y a peu ou très peu de débats. C'est très rapide à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de commission parlementaire. Il n'y a pas de longues heures de débat. Et on s'attaque à des droits fondamentaux. Et ce qui est réjouissant aujourd'hui, c'est de voir que... Dans les faits, après plusieurs années, on s'aperçoit à quelques années, des fois, surtout dans la conjoncture dans laquelle on est, des fois on dit « qu'est-ce que ça donne de lutter? » Bien, les juges de la Cour supérieure ont défait ces lois-là en disant « elles sont inconstitutionnelles et qu'un gouvernement ne peut pas, même si c'est majoritaire, aller à l'encontre des droits fondamentaux qui sont prévus dans la Constitution et dans la Charte. »
Alors, c'est intéressant, oui.
C'est ça qui est réjouissant. Parce qu'il faut se dire que ce soit nous à la CSN, les groupes populaires, Résolution à l'emploi, tous ceux qui luttent pour le progrès social dans notre société doivent se réjouir de ces progrès, de ces victoires-là, parce que c'est facile quand on est au pouvoir. Dans le fond, le jugement dit que c'est facile pour un gouvernement au pouvoir majoritaire de passer les lois qu'il veut, mais les tribunaux sont là et nos chartes et notre Constitution est là pour nous protéger. Et heureusement que les jugements ont tous été dans le même sens pour dire non, c'est des droits fondamentaux. Et le gouvernement, même si peut-être il y avait des bonnes raisons, plan économique ou autre, il doit faire attention quand il légifère. Parce qu'on est dans une société démocratique et ces droits-là sont des droits fondamentaux.
Et ces droits-là priment sur le gouvernement actuel. Et ça, c'est vraiment intéressant de voir ça, là. De voir qu'on... on pourrait pas mettre en place un gouvernement qui pourrait décider du jour au lendemain de changer l'ensemble des chartes puis de changer l'ensemble des droits, là.
Oui, puis moi, ce que je dirais, je rappellerais, ça fait pas longtemps qu'on vit dans une société démocratique. Tu sais, avant la Deuxième Guerre mondiale, si on regarde ça sur une période historique dans les 100 dernières années, là, pour les jeunes qui ont 25 ou 30 ans aujourd'hui, on pense que la Charte des droits, les CPE, les droits des femmes au congé de maternité, c'est acquis, ça a toujours été là, mais que d'élire nos gouvernements, bon, d'avoir le droit de parole, de s'exprimer, même si on a une opinion contraire, ça n'a pas toujours existé. Avant la Deuxième Guerre mondiale, dans le monde, il y avait très peu de pays de la démocratie. C'était, même en Europe, beaucoup de dictatures. Mm-hmm. Et donc, on oublie ça. Donc, on est dans... La démocratie est naissante, la Charte des droits, là, puis la Déclaration des droits de l'homme à l'ONU, ben c'est après la Deuxième Guerre mondiale. Là. Et c'est là-dessus que ces jugements-là... Des fois, on dit, qu'est-ce que ça donne d'avoir une Charte des droits de l'homme universelle? Ben les jugements qu'on a là sont basés sur le droit international qui repose sur ces grands principes-là, ces grandes chartes-là. On a vu évoluer la Cour suprême ou les jugements depuis quelques années vers ce sens-là, parce qu'avant... On reconnaissait le droit de s'associer, la liberté, mais pour discuter ou jaser ou faire du macramé, pas pour négocier. Le droit de négocier n'était pas reconnu comme étant un droit fondamental, alors que là, les jugements reconnaissent que le droit d'association est intimement lié avec le droit de négocier. On ne s'associe pas pour rien, on s'associe pour améliorer nos conditions de travail, pour pouvoir négocier, avoir un rapport de force par rapport soit à un employeur ou soit à un gouvernement.
Puis lorsqu'on voit, on parlait des acquis qu'on a fait, la place des femmes puis la reconnaissance du travail des femmes, ces deux lois-là touchent majoritairement des femmes, on l'a dit tout à l'heure, et on voit bien que tout n'est pas gagné, là, parce que ce statut-là reste à faire. Là. Comment on va l'appliquer dans la réalité, ça, c'est pas encore classé.
Et je ferai un lien aussi avec la loi sur l'équité salariale qu'on est allé chercher en 95, qui est venue, puis dans son application, mais dans la loi sur l'équité salariale, il y a une clause qui visait toutes les femmes du gouvernement ou des grandes entreprises qui pouvaient se substituer à une démarche d'équité salariale s'ils avaient fait un certain exercice. Et ça aussi, on a gagné ça. La juge Carole Julien a rendu un jugement en disant que c'est inconstitutionnel que toutes les femmes avaient droit à l'équité salariale. Et non pas juste celles qui n'étaient pas dans de grandes entreprises ou qui n'étaient pas au gouvernement. Donc, ça aussi, il faut se rappeler que même s'il y avait une loi proactive, il y avait des chapitres qui ont été invalidés, qui étaient inconstitutionnels. Et dans les services de garde, en CPE, il faut se rappeler qu'on a réglé la question d'équité salariale partiellement, la dernière négociation, sauf qu'il y a une partie qu'on conteste aussi, c'est le fait que dans les CPE, vu qu'il n'y avait pas de comparateur masculin, la loi prévoyait que l'équité, c'est à compter du quelques mois après que la commission ait statué sur le comparateur masculin. Ce qui fait que les travailleuses en CPE ont tenu une rétroactivité minime, c'est en 2007, alors que pour toutes les autres femmes dans la loi, c'est à partir de 2001. Donc, ça aussi, on conteste ça en Cour supérieure pour dire que ça devrait être considéré comme toutes les autres femmes.
Effectivement, intéressant. Des belles démarches que vous luttez encore. J'aimerais savoir, ces jugements-là, ça touche combien de femmes au Québec?
Bien, sur la loi 7 et 8, c'est environ entre 25 000 et 27 000 personnes. Pour les RSG, la garde en milieu familial, c'est entre 10 et 12 ou 13 000.
D'accord. Et comment ça se passe, le processus? Si aujourd'hui, quelqu'un nous écoute et se dit, puis peu importe qu'on soit dans le secteur de l'hébergement en milieu familial ou qu'on soit dans un autre secteur, quelqu'un qui veut syndiquer, comment ça fonctionne?
Bon, les gens n'ont qu'à appeler à la CSN, on est dans le bottin, et à ce moment-là, on leur explique comment faire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 50% plus un des travailleurs ou des travailleuses dans une entreprise qui signe une carte et qui paie le fameux 2 $ qui est la première cotisation syndicale que le Code prévoit. Donc, quand on a fait ça, après ça, on dépose ça à la Commission des relations de travail qui nous accrédite pour représenter ces gens-là. Si on a la majorité, c'est libre et volontaire l'adhésion. Et nous, on explique ça aux gens, on fait signer des cartes et on dépose l'accréditation. Et après ça, un coup qu'on a obtenu l'accréditation, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on négocie une première convention collective. Donc, à la CSN, on a des personnes, conseillères syndicales, qui s'occupent d'aider les gens à se syndiquer. Puis, puis on a des personnes aussi qu'on appelle, comme moi, là, qui négocions les conditions de travail, les conventions collectives. Et on a une foule d'autres personnes qui font du travail pour la défense des accidentés. On a des avocats pour les défendre en cours ou en arbitrage. Donc, on a une panoplie de services là, pour desservir l'ensemble des syndicats, soit dans notre région ou au Québec. Les gens peuvent aussi adhérer librement à une centrale syndicale ou à un autre. C'est libre à eux autres, là. Mais nous, on préfère quand ils nous appellent à la CSN, parce qu'on pense qu'on est un petit peu meilleur.
Là, ça, c'est pas moi qui le dis, le libre à chacun. La F3S, ça compte combien de membres?
La F3S, c'est 120 000 membres à travers le Québec. Majoritairement, on est l'organisation la plus représentative dans le secteur public de la santé
et des services sociaux.
Donc, on couvre des professionnels, aux infirmières, aux secrétaires, aux préposés, aux bénéficiaires. On regroupe aussi les paramédics, les ambulanciers. On regroupe aussi les centres d'hébergement privés. On regroupe aussi les organismes communautaires dans le milieu social et de santé. Et on regroupe aussi les services de garde en milieu familial.
Et la CSN syndique aussi des gens qui ne sont pas dans le secteur de la santé et des services sociaux.
Oui, à la CSN, on syndique dans tous les secteurs. Pâte et papier, l'hôtellerie, les caisses populaires. Il y a différentes fédérations qui desservent, qui regroupent sur une base de sectorielle là, les gens là, pour négocier les conventions collectives dans un même secteur.
Alors, avis à tous et à toutes, si vous avez envie de revamper votre pouvoir de négociation, alors, si vous avez envie de vous syndiquer, bien voici, vous avez entendu parler, vous avez entendu nos deux porte-parole de la CSN. Alors, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Je remercie énormément M. Rénal de Roy, conseiller syndical à la CSN pour la Fédération de la santé et des services sociaux, et Mélissa Gawette, vice-présidente régionale à la F3S. Alors, un énorme merci. Et si vous avez plus de questions sur la syndicalisation des services de garde en milieu familial ou tout autre accès à la syndicalisation, juste à téléphoner, peut-être laisser le numéro de téléphone de la CSN.
C'est le 563-6515.
Alors, voici, en espérant que beaucoup de gens puissent y avoir accès, c'est quand même un droit qui est important. Et si vous avez des questions sur d'autres aspects de vos droits en matière de travail, vous pouvez toujours nous contacter à Illusion Emploi dans le 819 au 569-99-93. On se laisse en musique. On vous souhaite une belle semaine. Bye-bye.